15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé-bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed. Chaque jour, pendant une heure, nous répondons à vos interrogations sur les sujets de santé qui vous préoccupent. D'ailleurs, il est là pour ça, dans ce studio à mes côtés. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la ménopause. Que se passe-t-il réellement dans l'organisme des femmes lorsque cette période tant redoutée débarque dans notre vie? Quelles sont les répercussions parfois insoupçonnées de ce bouleversement hormonal? Et comment mieux vivre ce cap? Quels sont les traitements qui peuvent vraiment soulager les troubles liés à la ménopause? Pour en parler, notre invitée, ce sera le docteur Emmanuelle Lecornet-Saucol. Elle est endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours depuis que le coronavirus se fait un peu plus calme en France, nous répondons à vos questions, donc celles qui concernent aussi vos petits et gros bobos du quotidien. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc. À la fin de cette émission, notre sexologue, aujourd'hui avec elle, il sera question des préliminaires.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un rapide point coronavirus. Et pour cela, nous accueillons en ligne le professeur Bruno Mégarban. Bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Vous êtes médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. On a pris très souvent de vos nouvelles dans cette émission. J'ai compté depuis le début, c'est la 7e fois qu'on vous invite. Vous voyez, le coronavirus nous a beaucoup occupés et vous aussi, on le sait. Justement, en réanimation, là où vous officiez, comment ça se passe aujourd'hui? Je crois que bon, ça y est, c'est revenu à la normale ou pas?
Oui, tout à fait. Évidemment, le nombre de patients qui ont présenté des formes graves de Covid a nettement diminué. Donc, au pic de l'épidémie, nous avions 56 patients en réanimation qui nécessitaient une ventilation artificielle. Au jour d'aujourd'hui, nous n'en avons plus que 7, qui d'ailleurs datent de ce pic initial. Depuis à peu près un mois et demi, plus aucun patient présentant une forme grave de Covid n'a été admis à Lariboisière en réanimation.
On est très content d'entendre tout cela, hein. Ça fait du bien.
Donc effectivement, on va dire quand même, le virus continue à circuler. On estime à peu près un cas d'infection par Covid se présente aux urgences tous les 3 jours. Contre là aussi, au pic de l'épidémie, environ 200 à 250 personnes par jour aux urgences.
Jimmy.
Ça a été un plaisir de vous avoir, Monsieur Mégarban. Vraiment, vous avez été un peu notre fil rouge durant toute cette période. On a vécu une période assez extraordinaire et s'il fallait tirer des enseignements de cette épidémie, lesquels pourrez-vous justement tirer?
En fait, c'est vrai que, on va dire, c'était une période très intéressante pour nous d'un point de vue médical parce que nous avons soigné des personnes malheureusement gravement malades, mais qui présentaient une maladie nouvelle. Alors, ce qui était très étonnant, évidemment, c'est que l'ensemble des patients que nous avions présentaient la même maladie. C'est la première fois que ça m'arrivait, depuis que je travaille en réanimation, d'avoir à soigner quasi exclusivement des patients qui ont la même maladie. À tel point qu'au début, on mélangeait un peu les patients entre eux, puisqu'ils avaient quasiment tous les mêmes symptômes, la même présentation. Après, évidemment, au fur et à mesure du temps, de nouveaux patients arrivant, d'autres partant, des choses se sont un tout petit peu diversifiées, et puis les complications sont apparues. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que pour gérer la crise, nous nous sommes entièrement consacrés aux soins des patients. Nous avons abandonné les cours, les congrès, les autres activités annexes, et nous avions surtout une organisation, on va dire, extrêmement effective, puisque nous avons tissé des collaborations très importantes entre les différents services du site hospitalier. Mmh. Et ça nous changeait beaucoup de ce qui se passait dans les quelques années précédentes, où malheureusement l'organisation hospitalière s'est complexifiée avec des structures étendues, de groupes hospitaliers, où finalement des strates administratives s'étaient multipliées, où on s'éloignait de plus en plus d'une filière logique de prise en charge des patients.
Donc on a retrouvé un peu l'essence, un peu de communication entre les services et de liens, ouais, c'est important.
Et puis on a retrouvé vraiment l'essence de notre travail, c'est-à-dire exactement pourquoi on a choisi de faire ce métier et de traiter directement les patients.
Professeur Mégarban, vous pensez donc que, je ne sais pas, on espère évidemment pas si une deuxième vague devait survenir, vous pensez que vous saurez mieux la prochaine fois soigner les malades, les prendre en charge, il y aura peut-être moins de morts du coup?
Alors, on va dire effectivement, on va dire dans le court terme, il est très peu probable qu'une deuxième vague ne survienne. Je crois qu'on va pouvoir passer un été tranquille. Néanmoins, on n'est pas à l'abri qu'à la fin de l'automne de cette année, une vague réapparaisse d'infection par le coronavirus après que le virus ait fait le tour de la Terre. Mmh. Tout le monde sait qu'actuellement, il est localisé en Amérique du Sud et que quelques foyers sont en train d'apparaître en Asie du Sud-Est. On saura dans le mois ou les 2 mois qui viennent, si des foyers nouveaux apparaissaient en Asie du Sud-Est. Ceci signifierait évidemment que le virus sera présent en Europe.
Ouais.
Voilà, on est reparti pour un tour, comme vous dites. Ouais. Alors, on va dire, ce qui va changer aujourd'hui, si jamais une telle vague se présentait par rapport à la vague précédente, c'est d'abord, évidemment, la population est avertie des risques et connaît les moyens de prévention et les met en application. Donc, effectivement, toutes les mesures barrières, comprenant la distanciation sociale, le lavage des mains aux solutions hydroalcooliques et le port de masques dans les zones où il y a une forte densité de personnes, en milieu fermé, eh bien ça va permettre de ralentir la circulation du virus. Mmh. Bien sûr, il faudra ajouter un certain niveau de confinement, notamment des personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées ou ayant des comorbidités. Aujourd'hui, on connaît à peu près les facteurs qui exposent un risque plus important de forme grave. Et donc, ces personnes, évidemment, en accord avec leur médecin traitant, devront se protéger davantage. Donc, très probablement, il sera pas nécessaire de revenir à un confinement aussi strict que l'on a connu, confinement qui n'a été nécessaire que parce que, évidemment, on n'avait pas anticipé la gravité de la crise et que brutalement sont arrivés à l'hôpital et aux urgences un nombre massif de cas graves qui ont failli saturer totalement le système et nous obliger à faire des sélections uniquement sur le capacitaire.
Docteur Jimmy Mohamed.
Donc cette situation probablement ne se présentera pas.
On l'espère, évidemment. Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur Megarban, est-ce que du coup on a raison de retourner dans les restaurants, de remettre les enfants à l'école, de prévoir des vacances, bref, de vivre un petit peu normalement? Est-ce que c'est le moment, justement?
Alors, tout à fait. Donc, évidemment, là, la circulation du virus est au plus bas. On estime à peu près à 500 nouveaux cas par jour en France. Donc, c'est très bas. Donc, effectivement, il faut reprendre un certain nombre de mesures habituelles de la vie normale, tout en, bien sûr, maintenant les mesures barrières. Donc, effectivement, la réouverture des écoles, des collèges, des lycées est indispensable. Les restaurants... évidemment aussi, il n'y a pas de raison de les maintenir plus fermés davantage. Je crois que le gouvernement réfléchit à une ouverture dès la semaine prochaine. Mais tout ça, bien sûr, devra se faire dans le respect des mesures barrières, car le virus est présent et donc le risque existe toujours. Rappelons évidemment que pour la majorité des personnes, cette infection ne se traduit que par un simple syndrome grippal, donc de la fièvre, des maux de tête, de la diarrhée, de la toux. Par contre, pour un certain nombre de personnes plus à risque, donc à peu près, on va dire, 5 à 10% de la population, là, il y a évidemment une menace plus importante de faire une pneumonie ou des formes beaucoup plus graves.
Merci beaucoup, professeur Megarban, d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation pour ce point coronavirus. Merci encore.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Emmanuel Lecornet-Socol, endocrinologue, et nous allons faire un point sur la période tant redoutée par les femmes, la ménopause, avec des solutions thérapeutiques dont nous parlerons pour soulager les différents troubles qui vont avec. On va tout vous expliquer en détail. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Tout de suite, nous accueillons, alors j'allais dire en ligne, mais non, elle est en studio avec nous. J'avais créé en ligne l'habitude en fait, mais non, on a le plaisir de vous recevoir dans ce studio, donc à bonne distance bien sûr. C'est vous, donc docteur Emmanuel Lecornet-Socol, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Eh bien nous sommes très contents, encore plus que d'habitude je crois. Vous êtes endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, vous êtes également l'auteur du livre « Et si c'était hormonal ?» chez Hachette Bien-être, que vous avez coécrit avec Caroline Balmash Aminadour. Alors, docteur Lecornet, aujourd'hui on vous a appelé, on vous a fait venir dans ce studio pour parler de la ménopause. D'abord, on va peut-être reprendre du début. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu s'il y a une définition, je ne sais pas, de la ménopause, c'est quoi très concrètement dans l'organisme?
Donc la définition de la ménopause médicalement, c'est l'arrêt des règles pendant une année. En fait, c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes. Ce n'est pas une maladie, c'est un événement qui est naturel. Les petites filles arrivées vers l'adolescence ont la puberté qui apparaît. À ce moment-là, il y a un bouleversement hormonal énorme, des changements physiques évidents. Eh bien, à la ménopause, il y a aussi un énorme bouleversement hormonal. Là, ça se voit moins, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a moins de choses et moins de ressentis pour les femmes.
Alors, à quel âge, justement, les Français sont en moyenne ménopausées ?
En moyenne, c'est 51 ans. C'est à peu près pareil dans tous les pays du monde. Mais par contre, parfois, ça peut être plus tôt. Ça peut démarrer vers 45 ans. Et puis, certaines femmes, plus tard, vers 55, 56 ans. Souvent, c'est génétique. C'est-à-dire que souvent, on a la ménopause au même âge que sa maman.
Ah oui, d'accord. Donc, il suffit de regarder. Docteur Jimmy Mohamed.
Vous dites en moyenne 50 ans et parfois 45 ans. Mais si ça débute encore plus tôt, avant 40 ans, est-ce que ça pose problème ? Est-ce que ça peut être révélateur d'une pathologie sous-jacente ?
Oui, alors avant 40 ans, on appelait ça avant la ménopause précoce. Maintenant, on a changé le terme, c'est pas très chouette. On appelle ça insuffisance ovarienne prématurée. C'est-à-dire que les ovaires s'arrêtent de fonctionner. Et en fait, la raison la plus fréquente, c'est des femmes qui ont eu des maladies qui ont nécessité des traitements, comme par exemple des chimiothérapies pour certains cancers ou des radiothérapies, qui ont détruit la fonction de leurs ovaires, qui n'arrivent plus à produire les hormones. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut qu'elles soient prises en charge de manière très spécifique pour qu'elles n'aient pas des conséquences de manquer d'hormones pendant trop longtemps.
Conséquences dont on va parler, bon, c'est plus normal à un âge plus habituel. Alors, peut-être qu'il faut quand même rappeler que la ménopause, vous avez dit, c'est un an, on la déclare, on va dire, officielle à partir d'un an sans règles, mais elle ne survient pas forcément, enfin, pas de façon brutale, c'est pas bam, d'un coup, on est ménopausé. Il y a ce qu'on appelle d'abord, avec la baisse donc, des hormones sexuelles, la pré-ménopause. La pré-ménopause, ça dure combien de temps ? Comment ça se passe ?
Alors, avant de répondre à votre question, en fait, il y a autant de façons de manifester sa ménopause que de femmes. Donc, il y a des femmes, effectivement, ça s'arrête du jour au lendemain, il ne se passe rien, elles n'ont aucun symptôme, rien, tout va bien.
Nous, on veut ça, on veut cette partie-là, elle a l'air sympa. moi, je veux celle-là, en tout cas.
Je vous la souhaite.
Ouais, merci.
Mais parfois, on peut avoir des symptômes qui apparaissent plus tôt. Et donc, avant cet arrêt des règles, il va y avoir une diminution de la production des hormones par les ovaires, parce que c'est ça, en fait. Hein. C'est que vos ovaires, ils fabriquaient des hormones de manière cyclique tous les mois, et puis ils finissent par s'épuiser parce qu'il n'y a plus assez de follicules. Petit rappel, quand on est avec un stock de follicules dans nos ovaires. Et au fur et à mesure des années, ce stock va s'épuiser. Donc certains vont pouvoir mûrir. On va avoir à peu près 400 ovulations, donc 400 ovules dans sa vie.
Ouais.
Et puis à la fin, quand on en a moins de 1000, donc on était à plusieurs millions, on est passé à moins de 1000, c'est là que la ménopause apparaît. Mais avant que ça s'arrête complètement, il y a moins d'hormones. Et c'est là qu'on peut avoir des symptômes, ce qu'on appelle la préménopause. Ça peut débuter vers 40 à 45 ans et durer jusqu'à l'arrêt des règles.
Ça peut être 10 ans alors de préménopause.
Oui, alors ça ne veut pas dire que pendant 10 ans, on ne va pas bien et c'est la catastrophe.
Ça peut être 10 ans progressivement.
Oui, exactement. Donc on peut avoir toutes sortes de symptômes. Ça peut être l'un des premiers signes, c'est les règles qui deviennent irrégulières ou des cycles qui sont plus courts. C'est-à-dire qu'on a ces règles toutes les 2 semaines, 3 semaines, au lieu de les avoir tous les mois. Ça peut être comme ça, des saignements itératifs. Ça peut être des problèmes d'humeur, des sautes d'humeur, ou une fatigue qui peut survenir également. Ça peut être des bouffées de chaleur, et ça, on va en reparler.
Après, ouais.
Même avant l'arrêt des règles, on peut avoir des moments où le corps va manquer d'hormones et envoyer ces fameux signaux qui entraînent des bouffées de chaleur.
Donc tous ces symptômes dont vous venez de parler, ça doit faire penser qu'on est peut-être en pré-ménopause. Merci beaucoup docteur Lecornet-Socol, ne bougez pas, on fait que commencer cet entretien. On vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on rentre un peu plus dans le concret. Comment explique-t-on justement ces bouffées de chaleur qui viennent nous enquiquiner, nous les femmes, quand la ménopause commence à pointer son nez ? Comment les faire disparaître ? D'ailleurs, est-ce que les plantes vers lesquelles de nombreuses femmes se tournent sont réellement efficaces ? On en parle juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, docteur Emmanuel Lecornet, vous êtes endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors avec vous aujourd'hui, on parle de la ménopause et des troubles qui y sont associés, parce que la ménopause, on l'a bien compris, ce n'est pas une maladie. On parlait juste avant de la période donc de la pré-ménopause et des fameuses bouffées de chaleur qui viennent nous enquiquiner à cette époque-là. Comment on explique physiologiquement la survenue de ces bouffées de chaleur ? Pourquoi elles arrivent tout d'un coup ?
Normalement, nos ovaires qui fabriquent des hormones, donc chez les hommes, la principale hormone sexuelle, c'est la testostérone. Il n'y en a qu'une. Chez les femmes, il y a deux hormones sexuelles parce qu'on est un peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça...
On est plus forte.
Je ne dirais rien. On a des estrogènes et de la progestérone. Et ces hormones, normalement, elles sont contrôlées par le cerveau, par une glande qui s'appelle l'hypophyse, qui envoie des signaux. Et en fait, quand les ovaires s'arrêtent de fonctionner parce qu'ils sont trop vieux, eh bien, le cerveau va essayer de les activer parce qu'il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et c'est ces fameux signaux qui vont activer toutes ces bouffées de chaleur.
Oh. C'est clair comme ça, effectivement, je comprends.
Donc, on peut. Alors, ça donne toutes sortes de symptômes. Soit on peut avoir la sensation d'avoir toujours chaud, soit en fait, on a une bouffée. Alors, les femmes décrivent très bien, ça monte doucement. Le plus souvent, ça commence plutôt au niveau du tronc, puis ça monte au niveau du visage. On devient tout rouge. Et donc, c'est là que les femmes veulent ouvrir absolument les fenêtres. Et puis après, hop, ça redescend. Et là, on a des sueurs. En fait, le corps, mécaniquement, quand on a trop chaud, va augmenter la transpiration pour pouvoir faire baisser la température.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et ces bouffées de chaleur, est-ce qu'elles surviennent à un moment particulier du cycle ou de la journée ou ça peut venir vraiment n'importe quand ?
Eh bien, le plus souvent, c'est la nuit. Et c'est là où ça va être le plus handicapant parce que quand vous avez beaucoup de bouffées de chaleur la nuit, eh bien, ça peut vous réveiller plusieurs fois dans la nuit, hacher votre sommeil. Et donc, c'est là où ça peut altérer énormément la qualité de vie. Imaginez si vous êtes réveillé toutes les heures, que vous devez vous changer trois fois par nuit, eh bien, on comprend que vous soyez fatigué, énervé, irritable. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut être amené à proposer aux femmes un traitement dans certains cas.
On va en parler, mais on est d'accord, ces bouffées de chaleur, ce n'est pas toute la vie. Une fois qu'on est ménopausé bel et bien et définitivement, il n'y en a plus normalement, hein, c'est ça ?
Le plus souvent, ça dure une année. C'est une année un peu difficile, mais parfois, certaines femmes en gardent. Alors, dans une moindre mesure en général, on peut parfois aussi en avoir un peu dans la journée. Et puis, ça s'atténue avec le temps. La plupart du temps, on dit qu'au bout de 7 années à peu près, on n'a plus de symptômes.
Jimmy ?
Et justement, vous avez dit qu'on pouvait les traiter. Quel est le meilleur traitement des bouffées de chaleur ?
Alors, le meilleur traitement, c'est le fameux traitement hormonal substitutif de la ménopause. Donc, c'est celui qui a fait tant de polémiques. Je vais aller très vite, mais pour résumer, à une époque, on a cru que le traitement hormonal substitutif de la ménopause, c'était la fontaine de jouvence pour les femmes, qu'elles ne vieilliraient plus, que leur peau, leurs cheveux, leur libido, tout serait parfait. Sauf que il y a des études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, qui ont été publiées au début des années 2000, et où on s'est rendu compte que cela augmentait certains cancers et les risques cardiovasculaires. Alors après, il y a eu beaucoup de polémiques sur ces études, parce que ces études avaient été faites chez des femmes qui avaient des hauts risques cardiovasculaires.
Beaucoup plus d'obèses, de
femmes en surpoids, de femmes ayant du diabète, de l'hypertension, du cholestérol, et qui avaient en moyenne 60 ans, et non pas 50 ans.
L'âge auquel on le prescrit plutôt en France.
Exactement. Ouais. D'autre part, aux États-Unis, les traitements qu'ils utilisent sont à base d'estrogènes issus de chevaux, alors qu'en France, on utilise des hormones naturelles. Donc c'est là où il y a des différences. Donc aujourd'hui, globalement, ce qu'on dit, c'est qu'on réserve le traitement hormonal substitutif de la ménopause aux femmes qui ont beaucoup de bouffées de chaleur, avec un retentissement, et qui, malgré les traitements naturels, n'arrivent pas à s'en sortir.
On rentrera dans le détail un tout petit peu plus sur le traitement un peu plus tard. Juste un mot quand même sur ces solutions naturelles, justement, la phytothérapie. On voit beaucoup de publicité à la télévision ou dans les pharmacies pour des produits à base de soja, de phytoestrogènes. Ça marche ou pas, ces choses-là ?
Il y a effectivement une telle demande des femmes d'être aidées dans cette période pour ces symptômes qu'on voit pléthore de choses. En fait, si on regarde la littérature scientifique médicale, il n'y a pas grand-chose qui marche. Une petite nuance sur les phytoestrogènes, notamment ceux issus du soja. Donc oui, il y a des phytoestrogènes dans le soja, c'est-à-dire des estrogènes issus de plantes qui peuvent aider à passer, mais ce sont aussi des hormones. Donc si on en prend beaucoup, ça peut aussi avoir des conséquences néfastes. Donc prudence, prudence avec ces phytoestrogènes. Et après, toutes les plantes, quand on fait des études, il n'y a pas forcément d'efficacité. Mais peut-être que pour certaines femmes, telle plante peut marcher. Pour telle autre femme, tel complément alimentaire peut marcher. Donc ça peut toujours valoir le coup d'essayer en discutant avec son médecin, bien sûr.
Docteur Lecornet, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Son rendez-vous revient dans un instant. Nous allons poursuivre cet entretien sur la ménopause et on s'arrêtera donc plus en détail sur le traitement hormonal de substitution. Justement, beaucoup de femmes craignent encore ses effets secondaires et notamment le risque de cancer du sang. Mais aujourd'hui, on limite à 5 ans maximum ce traitement. On va vous expliquer tout ça. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Et avec nous toujours en studio, c'est vous, docteur Emmanuel Lecornet. Vous êtes endocrinologue à Paris. Docteur, on a une question d'une auditrice tout de suite que je vais vous poser puisqu'on est dans le sujet complètement. C'est Sandra qui nous demande quel traitement pour les bouffées de chaleur si on a eu un cancer hormonodépendant, donc pas le droit de prendre un THS, le traitement de substitution de la ménopause.
Oui, typiquement, c'est une situation très importante qui arrive souvent et notamment, on peut essayer à nouveau les compléments alimentaires, comme on a dit. Mais il y a des études qui sont assez intéressantes sur l'hypnose qui sont menées actuellement. Donc, une technique qui pourrait vraiment aider dans ces cas-là. Peut-être aussi tout ce qui est la sophrologie, ça peut aider. Donc, on peut éventuellement conseiller à l'auditrice de s'orienter vers quelqu'un spécialisé en hypnose.
Très bien. Docteur Jimmy Mohamed.
Vous l'avez dit, le traitement hormonal substitutif est réservé aux femmes qui ont des symptômes persistants, invalidants et pour qui le traitement conventionnel n'a pas marché. Et ça se présente comment? C'est des patchs, des comprimés? Comment est-ce qu'on prend ça?
Le plus souvent, on préfère utiliser des patchs ou des crèmes. Alors pourquoi? Parce que quand vous prenez des hormones, des estrogènes par la bouche, en fait, les hormones, elles vont passer dans l'intestin, puis dans le foie. Et le fait qu'elles passent dans le foie, ça va augmenter certains risques, notamment les risques de thrombose, donc de caillots dans les veines, oui, comme les phlébites ou les embolies pulmonaires. Donc pour diminuer ce risque, on essaye d'éviter que les hormones, elles passent par le foie et on les fait passer directement par la peau. Et c'est pour ça qu'on utilise plutôt des patchs ou des crèmes.
Et on est d'accord, souvent on sépare les deux en fait, hein, d'un côté, enfin, sous une forme on prend les œstrogènes et sous l'autre on prend la progestérone, je crois.
Oui, alors en fait on prend toujours un petit peu, normalement tous les signes ils sont dus surtout au manque d'œstrogènes. Sauf qu'en fait, quand vous donnez que des œstrogènes, ça peut être dangereux pour l'utérus parce que ça peut augmenter les risques de cancer de l'utérus. Donc pour éviter ça, on donne de la progestérone qui va justement pouvoir protéger l'endomètre. Donc les femmes qui n'ont plus d'utérus, on ne leur donne que des œstrogènes.
Jimmy.
Est-ce qu'on peut être embêté toute la vie avec les symptômes de ménopause où ça se calme au bout d'un moment et si ça ne se calme pas, combien de temps au maximum on peut prendre le traitement?
Alors, les symptômes de la ménopause, le plus souvent, le gros, c'est une année. Ça peut durer jusqu'à 7 ans et c'est exceptionnel que ça dure très longtemps. De temps en temps, ça m'arrive de voir des dames qui ont 70 ans qui reviennent et elles ont quelques bouffées de chaleur pendant quelques mois et puis ça s'en va. En tout cas, le traitement aujourd'hui, le principal risque qu'on craint, c'est l'augmentation du cancer du sein. Et on sait que le risque, il est vraiment augmenté à partir de 10 ans. Donc, par précaution.
Et dans les 10 ans de traitement.
10 ans de traitement hormonal substitutif. Donc, on conseille aux femmes de ne pas dépasser 5 ans. Parce que pendant 5 ans, on n'a pas constaté d'augmentation de risque du cancer du sein. Donc, globalement, 5 ans en général, et en tout cas, on essaye de ne pas dépasser 10 ans.
Alors, autre conséquence de la ménopause, on voit aussi les résultats parfois sur la balance. Est-ce que c'est inéluctable, la prise de poids à la ménopause?
Non, ce n'est pas inéluctable, mais c'est vrai que c'est une période de la vie où on va être particulièrement fragile pour ça. Pourquoi? Parce que quand vous avez cette baisse hormonale, en fait, vous allez avoir une diminution de votre masse musculaire. Or, qu'est-ce qui fait qu'on dépense de l'énergie? Eh bien, c'est notre masse musculaire. Donc, si vous dépensez moins, eh bien, en mangeant exactement de la même façon, vous allez stocker plus. Et donc, c'est comme ça qu'on a un surpoids qui peut apparaître dès la préménopause.
Donc, il faut faire du sport.
Le meilleur moyen, exactement, c'est de bouger. On ne le répétera jamais assez. Mais avoir une activité physique régulière, c'est le premier moyen d'empêcher la prise de poids au moment de la préménopause et de la ménopause.
Jimmy ?
On parle de ménopause, mais certaines femmes ne vont pas avoir tellement de symptômes. Pour autant, il faut quand même continuer le suivi gynécologique. On n'arrête pas d'aller voir le gynéco sous prétexte qu'on n'a plus de règles et que c'est la fête.
Oui, c'est fondamental. Je vous rappelle qu'il faut continuer à faire des frottis tous les 2 ans. Donc c'est très important. Parfois même, au moment de la ménopause, on a même parfois un peu oublié d'aller chez le gynéco. On a eu des enfants, on a été très occupé par la vie active, on n'avait plus trop de problèmes. Donc là, ça peut être aussi le moment d'aller revoir un gynécologue ou d'en parler à son médecin traitant si on n'a pas fait notamment de frottis. Et puis bien sûr, 50 ans, vous savez, c'est le début de la surveillance systématique.
Pour le cancer du sein.
Pour le cancer du sein.
Dépistage systématique.
Et donc, il faut aller faire les mammographies tous les 2 ans. Normalement, toutes les femmes entre 50 et 70 ans reçoivent tous les 2 ans une ordonnance de prise en charge à 100% pour avoir ce dépistage par mammographie.
Dernier problème, entre guillemets, dont je voudrais parler dans cette émission, qui dit ménopause, dit aussi risque pour les os. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Est-ce qu'il faut faire un bilan? Comment ça se passe?
L'ostéoporose, c'est donc quand les os se fragilisent et qu'on peut faire des fractures plus facilement. Pareil, la chute hormonale, ça peut fragiliser les os. éventuellement, ce qu'on peut faire quand on a des facteurs de risque, notamment quand dans sa famille, il y a eu beaucoup d'ostéoporose, ou quand on a déjà fait des fractures, ou quand on a eu certaines maladies qui peuvent entraîner de l'ostéoporose, ou encore certains médicaments comme de la cortisone. À ce moment-là, il peut être utile de faire une mesure de la densité osseuse. On appelle ça une ostéodensitométrie. C'est très simple, hein, c'est juste une radio. Voilà. C'est vraiment très simple. On peut le faire une seule fois. Si c'est normal, on est tranquille. Si par contre il y a des anomalies, ça peut valoir le coup d'en reparler à son médecin et éventuellement d'utiliser certains traitements qui maintenant sont très efficaces.
Merci beaucoup docteur Lecornet d'avoir accepté notre invitation, et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur nos hormones en général, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Caroline Balma-Chaminadour, Et si c'était hormonal, chez Hachette Bien-être. Merci encore.
Merci beaucoup.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur, le 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve votre vrai faux, vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Déborah.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie, j'ai une question pour vous. J'adore les fruits, c'est super à cette période et j'ai tendance à avaler le bol entier de cerises, de fraises pendant la période estivale. C'est quand même bourré de sucre, non? Je ne sais pas vraiment si ça fait grossir, si je peux me permettre ces petits écarts en mangeant ce bol de fruits.
Alors, vu que Jimmy, vous mangez le saladier complet, on s'est dit qu'on n'allait pas vous poser la question à vous. On a préféré donc poser la question de Déborah à un nutritionniste, donc le docteur Arnaud Cocolle, donc médecin nutritionniste à Paris.
Les fruits sont riches en fructose, c'est le sucre du fruit. Donc, si vous en abusez, bien évidemment que ça peut poser des problèmes et ça peut être une charge non négligeable d'apport de sucre au niveau du foie. Donc, il ne faut pas exagérer. Donc, c'est vrai que si vous consommez un kilo de cerise, c'est extrêmement sucré. Si vous consommez par contre un kilo de pastèque ou un kilo de melon, c'est moins sucré parce que l'importance de l'eau est très importante et donc ça minore en fait l'apport calorique et l'apport en sucre. Donc il faut mieux, si vous voulez craquer en abondance, prendre un kilo de pastèque plutôt qu'un kilo de cerise. Parce que la densité nutritionnelle ne sera pas la même et l'apport calorique ne sera pas au final le même.
Voilà pour la réponse du docteur Cocolle qui était au micro de notre journaliste Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question pour vous Jimmy. On l'écoute, donc la question d'Olivier qui est près de Bordeaux.
Bonjour Jimmy Mohamed et bonjour Mélanie. Je vous appelle car j'avais une petite question à propos de scoliose. J'ai mon petit qui doit bientôt aller voir une rhumatologue car mon généraliste m'a annoncé qu'il avait une scoliose. Donc du coup, est-ce que pour vous, est-ce que c'est grave chez un enfant de 12 ans une scoliose? Est-ce que ça peut rester à vie ou est-ce que ça peut se guérir assez rapidement? Merci pour vos lumières.
Alors Jimmy, vos lumières. D'abord, une scoliose, c'est quoi précisément?
La scoliose, c'est la déformation permanente de la colonne vertébrale, le rachis, dans les trois plans de l'espace. Et en fait, le rachis, tout d'un coup, va être déformé par une rotation des vertèbres les unes par rapport aux autres. Et du coup, en cas de scoliose, la colonne vertébrale présente une torsion et les courbures naturelles sont modifiées. La conséquence, c'est que ça peut entraîner une gibbosité. C'est la déformation du haut du dos en forme de bosse. Et ça différencie de l'attitude scoliotique. Les enfants qui sont voûtés sur eux-mêmes, c'est pas une vraie scoliose. Celle-ci, elle est réductible lorsqu'on les allonge par le médecin. Et c'est pas parce qu'ils sont voûtés qu'ils vont avoir une scoliose. C'est vraiment une vraie maladie. Et dans 80% des cas, on n'a pas d'explication.
Donc c'est grave, là, le cas d'Olivier. Alors, on n'a pas, évidemment, vous n'êtes pas là pour faire de la consultation, mais il a 12 ans, une scoliose, il faut vraiment consulter.
C'est impératif parce que 12 ans, c'est l'âge de la puberté. Et la puberté est une période charnière car la scoliose évolue avec la croissance. Et plus l'enfant grandit, plus la déformation risque d'être importante. Il est donc impératif chaque année de rechercher une scoliose pour la traiter le plus tôt possible, puisque lorsqu'elle évolue, eh bien, on ne peut plus la corriger, on peut simplement ralentir l'évolution.
Et ça se traite comment quand ça se traite alors?
Alors déjà, la kinésithérapie, c'est pas le traitement de la scoliose, c'est pour soulager les douleurs. En revanche, ce qu'on propose, c'est le corset, donc pour immobiliser le rachis. Et puis ça, on le propose en fonction des enfants, soit quelques heures par jour, soit la nuit, soit en
permanence.
C'est un
peu contraignant, mais ça peut fonctionner.
Exactement. Ouais. Et dans certains cas, on est obligé d'avoir recours à la chirurgie qui consiste à corriger l'orientation des vertèbres grâce à des implants, puis à fusionner par une nouvelle croissance certaines vertèbres. Et ça, c'est lorsque la scoliose n'a pas été dépistée ni traitée à temps.
Donc on évite d'en arriver là. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Olivier qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo. Comme tous les jours, elle répondra à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait 2-3 conseils techniques pour mieux s'y prendre avec son compagnon. Catherine, évidemment, lui répondra dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui ne rate de toute façon pour rien au monde cette chronique puisque Catherine Blanc rentre à l'instant dans ce studio. Catherine, Jimmy, ravi de vous voir, vous voyez, comme tous les jours.
Comme
bonjour.
Toujours.
Il est un peu coincé, il n'a pas le droit de partir, c'est surtout ça, je le crains.
Pas du tout.
Mais moi, je suis ravie de le voir en tout cas.
Tenez, Jimmy, vous allez lire la question qu'on a reçue d'Héloïse pour une fois. On va changer un peu, je vais
là,
vous laisser.
Allez-y, donc c'est Héloïse, elle a 26 ans, on vous la lit. Je fais très peu de fellation à mon copain. Non pas que je n'aime pas ça, mais c'est surtout que je ne sais jamais comment m'y prendre. Et je suis trop gêné pour lui en parler. Auriez-vous quelques conseils à me donner ? Et je pense que vous compléterez, à mon avis, les conseils, Mélanie.
C'est vrai, Catherine, non, que c'est dommage pour Héloïse de ne pas faire alors qu'elle apprécie ça. Pourquoi ça peut paraître compliqué pour certaines personnes de faire une fellation ? Pour certaines femmes ou certains hommes ?
Alors, compliqué, ben je crois que ce qui complique les choses, c'est ou parce qu'on n'aime pas ou parce qu'on aime et qu'on se sent coupable d'aimer. Alors évidemment, du coup, on s'en mêle un peu les pinceaux parce qu'au lieu de faire très spontanément et d'assumer ou sa difficulté ou au contraire son plaisir, eh bien, on s'en mêle, on hésite, on n'ose pas, on a peur de ce que ça pourrait montrer ou de ce que ça pourrait laisser penser de soi. Et du coup, ça devient un truc très mécanique et inopérant.
Jimmy.
Est-ce qu'il y a la crainte, je ne sais pas, de faire mal par exemple, de penser qu'on ne va pas mordre, mais on est très pratique là aujourd'hui, hein, mais est-ce que
oui.
Voilà, la crainte...
Avec vous,
la...
c'est souvent pratique, hein, de toute façon.
Oui, non, mais est-ce que c'est peut-être une des interrogations et du coup, comme bien on a sûr. Peur de faire mal, bah, on ne fait pas bien parce qu'on est sur la retenue.
Tout à fait, c'est pour ça que quand elle dit « j'aime ça » ou « j'ai envie de ça » ou « je trouve ça très bien », etc., eh bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est la crainte que mon désir soit un désir coupable. Et comme évidemment une bouche a des dents, eh bien la peur que dans ce désir, j'y aille franco et que je sois dangereuse pour l'autre. Et évidemment que la fellation représente et pour les hommes une angoisse de castration et pour les femmes une angoisse de castrer l'autre. Mmh. Alors il y a évidemment que la retenue qui les protège quand elles ont le sentiment qu'elles aiment. Elle serait trop gourmande et à trop gourmande, elle mangerait ce pénis.
Bon, est-ce que vous avez le guide pratique puisqu'elle vous demande quelques conseils, mais je sais que vous n'aimez pas les guides pratiques, alors dites-nous, mais quels conseils vous pourriez lui donner en tout cas pour alors, se lancer puisqu'elle aime ça.
Je pense que d'abord, c'est de s'accorder le droit d'aimer ça, de s'accorder le droit de dire à son partenaire qu'elle aime ça et que est-ce qu'il aime ça pour voir que de toute façon, lui, il est plutôt en attente le cas échéant. Donc, du coup, ça libère une part de son anxiété. Et puis après, pour la technique, il n'y a pas de technique. Il y a juste, il n'y a pas de technique unique. Il y a comment on aborde l'autre, comment on l'envisage, comment on aimerait être abordé soi. Je crois que la question de se poser de son propre sexe, comment je voudrais qu'on envisage mon propre sexe, qu'on y aille goulûment, qu'on y aille délicatement, pour pouvoir faire ce que l'on aime soi. Du coup, en fait, on sait qu'on ne va pas faire de mal, puisqu'on ne souhaiterait pas qu'on nous fasse de mal. Du coup, ça déculpabilise et ça désangoisse sur ce sujet-là. Et puis ensuite, c'est observer tranquillement comment l'autre réagit et voir ce qui le fait justement s'abandonner ou ce qui le fait être sur la retenue, pour pouvoir ouvrir le champ des possibilités là où il semble être dans un cadre de confort.
Timmy ?
C'est parfois un acte qui peut être vécu comme dégradant, or c'est pas tellement le cas. Si on le vit de cette façon, peut-être qu'on n'est pas obligé de le pratiquer tout simplement.
Ah bien sûr, de toute façon, tout ce que dans la sexualité, tout ce que l'on vit comme étant dégradant, on ne le vit pas. On ne le fait pas, on s'y oppose. Même si l'autre nous considère comme étant coincé, eh bien, de toute façon, c'est notre liberté d'avoir des limites. Donc, évidemment, il n'est pas question du tout de s'imposer quelque chose. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est dégradant ? C'est souvent, d'ailleurs, la pornographie ou souvent les films qui ont mis les femmes dans une position de soumission. Rappelons quand même qu'une fellation, c'est curieusement pas la femme qui est en position de soumission, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, la femme est plutôt en position de pouvoir, puisqu'elle a une bouche dentée, et que donc du coup c'est elle qui pourrait être dangereuse pour l'autre, et pas le contraire. C'est d'ailleurs pour ça que la pornographie a insisté sur cette soumission féminine, c'est justement pour compenser l'anxiété masculine potentielle.
Elle dit qu'elle est trop gênée pour lui en parler, il faut qu'elle
je sais pas, il faut aborder ce sujet-là avec lui, puisqu'elle a envie de le faire, elle n'ose pas, est-ce qu'ils doivent en parler? Ça peut être compliqué d'aborder ce sujet-là.
Mais en fait, ça raconte la même chose, c'est-à-dire qu'elle est trop gênée pour en parler, et c'est sa pudeur.
Elle est trop gênée pour le faire, elle est trop gênée pour
c'est
en
ça.
Parler,
c'est toujours, difficile. C'est toujours sa pudeur qui est à l'origine de la difficulté. Donc encore une fois, ce n'est pas une question technique. C'est pour ça que je ne veux pas dire, il faut faire comme ça, il faut faire plutôt comme ça, et puis il faut tenir le pénis plutôt comme ça, le sucer, le lécher, le mordre, le mordiller, etc. Il n'y a pas de technique.
Y a pas de règle.
Simplement, c'est sa pudeur qui fait qu'elle en fait toute une aventure périlleuse et inquiétante. Je crois que la première des choses, c'est peut-être dire qu'elle aime bien cette idée, qu'elle voudrait l'essayer et que s'il lui montrait comment il aime ce qu'il aime, comment il se masturbe, comment donc du coup lui va tenir son pénis plutôt fermement ou pas fermement. Donc est-ce qu'il aime être plutôt contenu ou plutôt délicatement caressé ou léché? Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir petit à petit apaiser cette pudeur ou cet interdit qu'elle s'impose.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On n'aura pas eu le guide pratique, mais c'est pas grave.
Quand même un peu, vous exagérez, hein, je peux pas faire plus.
Merci Catherine. Donc à demain Jimmy également, c'est la fin de cette émission. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répond dans cette émission, ça se passe au 39-21. Laissez-nous une question et puis on y répondra dès demain ou après-demain. Tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Alors je sais que cet été, vous aviez prévu des vacances assez fastueuses dans un très bel hôtel aux Maldives. Vous avez déjà réservé en première sur Qatar Airways. Mais comme vous le savez, le Covid est passé par là. Je vous propose plutôt de partir en France. Philippe Gloguen, le créateur du Routard, publie un livre absolument magnifique qui s'appelle Voyage en France. Il va nous aider à trouver une destination à l'intérieur de notre beau pays. Ça va être 2 heures passionnantes dédiées au tourisme.
Génial, c'est vrai que je ne sais pas du tout où partir en vacances, ça tombe très 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 bien,
et
donc ben je vais voilà. être à
Et je vous offrirai
l'écoute.
Peut-être ce livre, si vous êtes
sage.
Ah
ben, avec grand plaisir, je serai très sage. Merci beaucoup, et vous aussi surtout, restez sur Europe 1. Hein.